Octave Mirbeau, des artistes, Auguste Rodin, deuxième article. L'exposition qui vient de s'ouvrir dans les galeries de M. Georges Petit, rue de Sèze, a été un colossal, un écrasant succès pour les deux merveilleux artistes à qui nous la devons, Claude Monet, Auguste Rodin. Non seulement elle les met à leur rang, mais elle les place hors de pair. Ce sont eux qui, dans ce siècle, incarnent le plus glorieusement, le plus définitivement, ces deux arts magnifiques, la peinture et la sculpture. À cela, il n'y a pas de doute possible. Les vanités, les jalousies, les ignorances, les impuissances ne peuvent rien contre cette vérité éclatante inscrite sur les murs de la rue de Sèze en d'admirables chefs-d'œuvre. Lorsqu'il entre dans cette galerie, le visiteur, même le plus réfractaire aux joies de l'esprit, le plus fermé aux supérieures compréhensions de l'art, éprouve comme une puissance sensuelle, comme un trouble physique devant l'éblouissement de cette lumière et la sublime beauté de ses formes. S'il ne peut se rendre compte de la sensation étrange et forte qui naît en lui, analyser les secousses nerveuses qui remontent de sa chair à son cerveau, du moins, il sait qu'il est en présence de quelque chose de sacré comme une création, de quelque chose qui dompte et viole son inertie mentale et l'emplit de respect, de quelque chose qui n'est autre que le génie. Et il ne rit plus. J'ai tenté d'ailleurs d'exprimer mon admiration pour l'unique, l'immense œuvre de M. Claude Monet. Je voudrais tenter d'exprimer, même dans le cadre bref du journal, l'admiration que m'inspire l'œuvre extraordinaire de M. Auguste Rodin. Je ne puis malheureusement que la résumer en notations écourtées, en impressions décousues. Il m'est impossible, par exemple, de décrire le groupe des bourgeois de Calais qui comporte trop de sentiments, trop de pensées symbolisées, dans trop de formes sublimes, pour que je puisse faire tenir dans l'espace d'un article ce drame humain, cette colossale évocation de l'histoire. Car ce groupe est plus que l'œuvre d'un génial statuaire, c'est l'œuvre d'un grand cerveau, familier avec les plus hautes conceptions de la pensée métaphysique. En tête d'une magistrale étude consacrée à M. Auguste Rodin, M. Gustave Geffroy a placé cette observation de Stendhal. Depuis deux siècles, une prétendue politique proscrivait les passions fortes, et, à force de les comprimer, elle les avait anéanties. On ne les trouvait plus que dans les villages. Le XIXe siècle va leur rendre leurs droits. Si un Michel-Ange nous était donné dans nos jours de lumière, où ne parviendrait-il point? Quel torrent de sensations nouvelles et de jouissances ne répandrait-il pas dans un public si bien préparé par le théâtre et les romans? Peut-être créerait-il une sculpture moderne? Peut-être forcerait-il cet art à exprimer les passions, si toutefois les passions lui conviennent? Du moins, Michel-Ange lui ferait-il exprimer les états de l'âme? La tête de Tancrède après la mort de Clorinde, Imogène apprenant l'infidélité de Posthumus, la douce physionomie d'Herminie arrivant chez les bergers, les traits contractés de Macduff demandant l'histoire du meurtre de ses petits-enfants, Othello après avoir tué Desdémone, le groupe de Roméo et Juliette se réveillant dans le tombeau, Hugo et Parisina écoutant leur arrêt de la bouche de Nigdo, paraîtrait sur le marbre et l'antique tomberait au second rang. En 1817, Stendhal avait prévu Auguste Rodin. Par une de ses visions sur l'avenir intellectuel des races, comme en avait si souvent ce profond esprit, il décrit clairement cet art qui n'était pas né encore et qu'il ne devait pas avoir la joie de voir réalisé par des œuvres magnifiques. D'ailleurs, l'eût-il aimé cet art ? Je me pose cette question avec une grande mélancolie. En peinture et en sculpture, il a aimé tant de choses laides. Il a admiré Canova. En effet, C'est bien l'art de Rodin, résumé en ces quelques lignes de Stendhal, mais ce n'est pas tout l'art de ce prestigieux statuaire. Car Rodin a exprimé plus que des passions, il a exprimé de la pensée. Il a fait plus encore, et ce que Stendhal lui-même n'eût pas cru possible, il a synthétisé par d'inoubliables conceptions, plus éloquemment qu'aucun littérateur, plus fortement qu'aucun psychologue, l'état de l'âme contemporaine et la maladie morale du siècle. Aussi adorateur de la beauté de la forme éternelle que l'antique, initiateur de 1000 attitudes corporelles, régénérateur de la tradition plastique, il a pu, sans rompre l'équilibre anatomique, en dotant l'art de beauté nouvelle, il a pu, non seulement forcer le marbre à se tordre sous la douleur et la volupté, il a pu encore le forcer à crier la suprême souffrance de la négation moderne, à pleurer les dévorantes larmes de l'inassouvi et les chutes de l'homme, d'idéal en idéal, jusqu'à s'accoucher dans le néant. Ce qu'il y a de poignant dans les figures de Rodin, c'est que nous nous retrouvons en elles. C'est que nous y mirons nos désenchantements. C'est que, suivant une belle expression de M. Stéphane Mallarmé, elles sont nos douloureux camarades. Tout l'art de Rodin est dans ce petit bronze, plus douloureux que n'importe lequel des vers de Baudelaire. Le buste droit, la gorge en avant est fleurie de chair tentatrice. Le corps horizontal est vibrant comme une flèche qui déchire l'air. La face cruelle, inexorable, la femme est emportée à travers des espaces. Elle est belle de cette inétreignable beauté qu'ont les chimères que nous poursuivons, qu'ont les rêves que nous n'atteindrons jamais. Renversée sur ce corps horizontal, est le corps d'un adolescent, anatomie de souffrance. Ses bras repliés en arrière cherchent à étreindre ce torse implacable. Ses jambes qui pendent voudraient arrêter ce corps qui fuit. Nul enlacement de ces deux êtres, aucune partie de ces deux vies charnelles ne se joint. Et cependant, tout dans cet enfant, suppliant et vaincu, a soif d'amour, d'idéal, d'embrassement, toutes choses par quoi il meurt, qui sont là, à portée de sa main, à portée de son âme, et que sa main ne saisira jamais et dont son âme jamais ne connaîtra la possession. La femme fuit, elle ne se détournera pas. Toutes les aspirations de la vie, toutes les désespérances sont là, exprimées seulement par des formes, par des modèles, par d'admirables inventions de la ligne, et d'extraordinaires concordances des courbes, et qui font naître et chanter le poème de la souffrance humaine. Je voudrais multiplier les exemples, car quelle est la douleur intérieure, quelle est la beauté vivante de la nature, quelle est l'inassouvie des possessions charnelles, quelle est la tristesse des luxures, quel est aussi l'héroïsme des embrassements humains, que n'est point rendu Auguste Rodin. Mais je dois me borner aujourd'hui à une constatation. Écho de Paris, 25 juin 1889.